Édouard Chouret, Les Grands Initiés, Livre 2, Krishna, l'Inde et l'initiation brahmanique. Celui qui crée sans cesse les mondes est triple. Il est Brahma, le Père, il est Maya, la Mère, il est Vishnu, le Fils, essence, substance et vie. Chacun renferme les deux autres et tous trois sont un dans l'ineffable. Doctrine brahmanique ou Upanishad. Tu portes en toi-même un ami sublime que tu ne connais pas, car Dieu réside dans l'intérieur de tout homme, mais peu savent le trouver. L'homme qui fait le sacrifice de ses désirs et de ses œuvres à l'être d'où procèdent les principes de toute chose et par qui l'univers a été formé, obtient par ce sacrifice la perfection. Car celui qui trouve en lui-même son bonheur, sa joie et en lui-même aussi sa lumière, est un avec Dieu. Or, sache-le, l'âme qui a trouvé Dieu est délivrée de la renaissance et de la mort, de la vieillesse et de la douleur, et boit l'eau de l'immortalité. Bhagavad Gita. Chapitre 1. L'Inde héroïque, les fils du soleil et les fils de la lune.
De la conquête de l'Inde par les Aryens sortit une des plus brillantes civilisations qu'ait connue la Terre. Le Gange et ses affluents virent naître de grands empires et d'immenses capitales comme Ayodhya, Hastinapura et Indraprastha. Les récits épiques du Mahabharata et les cosmogonies populaires des Puranas, qui renferment les plus vieilles traditions historiques de l'Inde, parlent avec éblouissement de l'opulence royale, de la grandeur héroïque et de l'esprit chevaleresque de ces âges reculés. Rien de plus fier, mais aussi de plus noble, qu'un de ces rois aryens de l'Inde, debout sur son char de guerre et qui commande à des armées d'éléphants, de chevaux et de fantassins. Un prêtre védique consacre ainsi son roi devant la foule assemblée. Je t'ai amené au milieu de nous. Tout le peuple te désire. Le ciel est ferme, la terre est ferme, ses montagnes sont fermes. Que le roi des familles soit ferme aussi. Dans un code de loi postérieur, le Manava Dharma Sastra, on lit : ces maîtres du monde qui, ardents à s'entre-défaire, déploient leur vigueur dans la bataille sans jamais tourner le visage, montent après leur mort directement au ciel. De fait, ils se disent descendants des dieux, se croient leurs rivaux, prêts à le devenir eux-mêmes. L'obéissance filiale, le courage militaire, avec un sentiment de protection généreuse vis-à-vis de tous, voilà l'idéal de l'homme. Quant à la femme, l'épopée hindoue, humble servante des brahmanes, ne nous la montre guère que sous les traits de l'épouse fidèle. Ni la Grèce, ni les peuples du Nord n'ont imaginé dans leurs poèmes des épouses aussi délicates, aussi nobles, aussi exaltées que la passionnée Sita ou la tendre Damayanti. Ce que l'époque hindoue ne nous dit pas, c'est le mystère profond du mélange des races et la lente incubation des idées religieuses qui amenèrent les changements profonds dans l'organisation sociale de l'Inde védique. Les Aryas, conquérants de races pures, se trouvaient en présence de races très mêlées et très inférieures, où le type jaune et rouge se croisait sur un fond noir en nuances multiples. La civilisation hindoue nous apparaît ainsi comme une formidable montagne, portant à sa base une race mélanienne, les cent mêlés sur ses flancs et les purs ariens à son sommet. La séparation des castes n'étant pas rigoureuse à l'époque primitive, de grands mélanges se firent entre ces peuples. La pureté de la race conquérante s'altéra de plus en plus avec les siècles. Mais jusqu'à nos jours, on remarque la prédominance du type arien dans les hautes classes et du type mélanien dans les classes inférieures. Or, des bas-fonds troubles de la société hindoue s'éleva toujours, comme les miasmes des jungles mêlés à l'odeur des fauves, une vapeur brûlante de passion, un mélange de langueur et de férocité. Le sang noir, surabondant, a donné à l'Inde sa couleur spéciale. Il a affiné et efféminé la race. La merveille est que malgré ce métissage, les idées dominantes de la race blanche aient pu se maintenir au sommet de cette civilisation à travers tant de révolutions. Voilà donc la base ethnique de l'Inde bien définie. D'une part, le génie de la race blanche avec son sens moral et ses sublimes aspirations métaphysiques. De l'autre, le génie de la race noire avec ses énergies passionnelles et sa force dissolvante. Comment ce double génie se traduit-il dans l'antique histoire religieuse de l'Inde? Les plus anciennes traditions parlent d'une dynastie solaire et d'une dynastie lunaire. Les rois de la dynastie solaire prétendaient descendre du soleil, les autres se disaient fils de la lune. Mais ce langage symbolique recouvrait deux conceptions religieuses opposées et signifiait que ces deux catégories de souverains se rattachaient à deux cultes différents. Le culte solaire donnait au dieu de l'univers le sexe mâle. Autour de lui se groupait tout ce qu'il y avait de plus pur dans la tradition védique, la science du feu sacré et de la prière, la notion ésotérique du Dieu suprême, le respect de la femme, le culte des ancêtres, la royauté élective et patriarcale. Le culte lunaire attribuait à la divinité le sexe féminin sous le signe duquel les religions du cycle arien ont toujours adoré la nature et souvent la nature aveugle, inconsciente, dans ses manifestations violentes et terribles. Ce culte penchait vers l'idolâtrie et la magie noire, favorisait la polygamie et la tyrannie, appuyé sur les passions populaires. La lutte entre les fils du soleil et les fils de la lune, entre les Pandava et les Kaurava, forme le sujet même de la grande épopée hindoue, le Mahabharata, sorte de résumé en perspective de l'histoire de l'Inde aryenne avant la constitution définitive du brahmanisme. Cette lutte abonde en combats acharnés, en aventures étranges et interminables. Au milieu de la gigantesque épopée, les Kaurava, les rois lunaires, sont vainqueurs. Les Pandava, les nobles enfants du soleil, les gardiens des rites purs, sont détrônés et bannis. Ils errent, exilés, cachés dans les forêts, réfugiés chez les anachorètes, en habits d'écorce, avec des bâtons d'ermite. Les instincts d'en bas ont-ils triomphé? Les puissances des ténèbres, représentées dans l'épopée hindoue par les Rakshasas, noirs, vont-elles l'emporter sur les Devas, lumineux? La tyrannie va-t-elle écraser l'élite sous son char de guerre? Et le cyclone des passions mauvaises broyer l'autel védique, éteindre le feu sacré des ancêtres? Non, l'Inde n'en est qu'au début de son évolution religieuse. Elle va déployer son génie métaphysique et organisateur dans l'institution du brahmanisme. Les prêtres qui desservaient les rois et les chefs sous le nom de Purohita, préposé au sacrifice du feu, était déjà devenu leur conseiller et leur ministre. Ils avaient de grandes richesses et une influence considérable. Mais ils n'auraient pu donner à leur caste cette autorité souveraine, cette position inattaquable au-dessus du pouvoir royal lui-même, sans le secours d'une autre classe d'hommes qui personnifie l'esprit de l'Inde dans ce qu'il a de plus original et de plus profond. Ce sont les anachorètes. Depuis un temps immémorial, ces ascètes habitaient des ermitages au fond des forêts, au bord des fleuves ou dans les montagnes, près des lacs sacrés. On les trouvait tantôt seuls, tantôt assemblés en confrérie, mais toujours unis dans un même esprit. On reconnaît en eux les rois spirituels, les maîtres véritables de l'Inde. Héritiers des anciens sages, des rishis, eux seuls possédaient l'interprétation secrète des Védas. En eux vivait le génie de l'ascétisme, de la science occulte, des pouvoirs transcendants. Pour atteindre cette science et ce pouvoir, ils bravent tout, la faim, le froid, le soleil brûlant, l'horreur des jungles. Sans défense dans leur cabane de bois, ils vivent de prières et de méditation. De la voix, du regard, ils appellent ou éloignent les serpents, apaisent les lions et les tigres. Heureux qui obtient leur bénédiction, il aura les Devas pour amis. Malheur à qui les maltraite ou les tue. Leur malédiction, disent les poètes, poursuit le coupable jusque dans sa troisième incarnation. Les rois tremblent devant leurs menaces et, chose curieuse, ces ascètes font même peur aux dieux. Dans le Ramayana, Visvamitra, un roi devenu ascète, acquiert un tel pouvoir par ses austérités et ses méditations que les dieux tremblent pour leur existence. Alors, Indra lui envoie la plus ravissante des apsaras qui vient se baigner dans le lac devant la hutte du saint. L'anachorète est séduit par la nymphe céleste. Un héros naît de leur union et pour quelques milliers d'années, l'existence de l'univers est garantie. Sous ces exagérations poétiques, on devine le pouvoir réel et supérieur des anachorètes de la race blanche, qui, d'une divination profonde, d'une volonté intense, gouvernent l'âme orageuse de l'Inde du fond de leur forêt. C'est du sein de la confrérie des anachorètes que devait sortir la révolution sacerdotale qui fit de l'Inde la plus formidable des théocraties. La victoire du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, de l'anachorète sur le roi, d'où naquit la puissance du brahmanisme, advint par un réformateur de premier ordre. En réconciliant les deux génies en lutte, celui de la race blanche et de la race noire, les cultes solaires et les cultes lunaires, cet homme divin fut le véritable créateur de la religion nationale de l'Inde. En outre, par sa doctrine, ce puissant génie jeta dans le monde une idée nouvelle d'une portée immense, celle du Verbe divin ou de la divinité incarnée et manifestée par l'homme. Ce premier des messies, cet aîné des fils de Dieu, fut Krishna. Sa légende a cet intérêt capital qu'elle résume et dramatise toute la doctrine brahmanique. Seulement, elle est restée comme éparse et flottante dans la tradition. Par cette raison que la force plastique fait absolument défaut au génie hindou. Le récit confus et mythique du Vishnu Purana renferme cependant des données historiques sur Krishna d'un caractère individuel et saillant. D'autre part, le Bhagavad Gita, ce merveilleux fragment interpolée dans le grand poème du Mahabharata, et que les brahmanes considèrent comme un de leurs livres les plus sacrés, contient dans toute sa pureté la doctrine qu'on lui attribue. C'est en lisant ces deux livres que la figure du grand initiateur religieux de l'Inde m'est apparue avec la persuasion des êtres vivants. Je raconterai donc l'histoire de Krishna en puisant de ces deux sources, dont l'une représente la tradition populaire et l'autre celle des initiés. II. Le roi de Madura. Au commencement de l'âge du Kali Yuga, vers l'an 3000 avant notre ère, selon la chronologie des Brahmanes, la soif de l'or et du pouvoir envahit le monde. Pendant plusieurs siècles, disent les anciens sages, Agni, le feu céleste qui forme le corps glorieux des Devas et qui purifie l'âme des hommes, avait répandu sur la terre ses effluves éthérées. Mais le souffle brûlant de Kali, la déesse du désert et de la mort, qui sort des abîmes de la terre comme une haleine embrasée, passait alors sur tous les cœurs. La justice avait régné avec les nobles fils de Pandu, les rois solaires qui obéissent à la voix des sages. Vainqueurs, ils pardonnaient aux vaincus et les traitaient en égaux. Mais depuis que les fils du soleil avaient été exterminés ou chassés de leur trône et que leurs rares descendants se cachaient chez les Anachorètes, l'injustice, l'ambition et la haine avaient pris le dessus. Changeant et faux comme l'astre nocturne dont ils avaient pris le symbole, les rois lunaires se faisaient une guerre sans merci. L'un, cependant, avait réussi à dominer tous les autres par la terreur et de singuliers prestiges. Dans le nord de l'Inde, au bord d'un large fleuve, brillait une ville puissante. Elle avait 12 pagodes, 10 palais, 100 portes flanquées de tours. Des étendards multicolores flottaient sur ses hauts murs, semblables à des serpents ailés. C'était la hautaine Madura, imprenable comme la forteresse d'Indra. Là régnait Kamsa, au cœur tortueux, à l'âme insatiable. Il ne souffrait autour de lui que des esclaves, il ne croyait posséder que ce qu'il avait terrassé, et ce qu'il possédait ne lui semblait rien auprès de ce qui lui restait à conquérir. Tous les rois qui reconnaissaient le culte lunaire lui avaient rendu hommage. Mais Kamsa songeait à soumettre toute l'Inde, de Lanka jusqu'à l'Himavat. Pour accomplir ce dessein, il s'allia à Kalayeni, maître des monts Vindhya, le puissant roi des Yavanes, les hommes à la face jaune. En sectateur de la déesse Kali, Kalayeni s'était adonné aux arts ténébreux de la magie noire. On l'appelait l'ami des Rakshasas ou des démons noctivales et le roi des serpents, parce qu'il se servait de ses animaux pour terrifier son peuple et ses ennemis. Au fond d'une forêt épaisse se trouvait le temple de la déesse Kali, creusé dans une montagne. Immense caverne noire, dont on ignorait le fond et dont l'entrée était gardée par des colosses à tête d'animaux taillés dans le roc. C'est là qu'on amenait ceux qui voulaient rendre hommage à Kalayeni pour obtenir de lui quelques pouvoirs secrets. Il apparaissait à l'entrée du temple au milieu d'une multitude de serpents monstrueux qui s'entortillaient autour de son corps et se dressaient au commandement de son sceptre. Il forçait ses tributaires à se prosterner devant ces animaux dont les têtes enchevêtrées surplombaient la sienne. En même temps, il murmurait une formule mystérieuse. ceux qui avaient accompli ce rite et adoré les serpents obtenaient, disait-on, d'immenses faveurs et tout ce qu'ils désiraient. Mais ils tombaient irrévocablement au pouvoir de Kalayeni. De loin ou de près, ils restaient ses esclaves. Essayaient-ils de lui désobéir, de lui échapper, ils croyaient voir se dresser devant eux le terrible magicien entouré de ses reptiles. Ils se voyaient environnés de leurs têtes sifflantes, paralysés par leurs yeux fascinateurs. Kansa demanda à Kalayeni son alliance. Le roi des Yavanna lui promit l'empire de la terre, à condition qu'il épouserait sa fille. Fière comme une antilope et souple comme un serpent, était la fille du roi magicien, la belle Nisumba, au pendeloque d'or, au sein d'ébène. Son visage ressemblait à un nuage sombre, nuancé de reflets bleuâtres par la lune. Ses yeux, à deux éclairs, sa bouche avide, à la pulpe d'un fruit rouge au pépin bleu. On eût dit Kali elle-même, la déesse du désir. Bientôt, elle régna en maîtresse sur le cœur de Kansa et, soufflant sur toutes ses passions, en fit un brasier ardent. Kansa avait un palais rempli de femmes de toutes les couleurs, mais il n'écoutait que Nisumba. Que j'ai de toi un fils, lui dit-il, et j'en ferai mon héritier. Alors, je serai le maître de la terre, et je ne craindrai plus personne. Cependant, Nisumba n'avait point de fils, et son cœur s'en irritait. Elle enviait les autres femmes de Kansa, dont les amours avaient été fécondes. Elle faisait multiplier par son père les sacrifices à Kali, mais son sein restait stérile, comme le sable d'un sol torride. Alors, le roi de Madura ordonna de faire devant toute la ville le grand sacrifice du feu et d'invoquer tous les devas. Les femmes de Kansa et le peuple y assistèrent en grande pompe. Prosternés devant le feu, les prêtres invoquèrent par leurs chants le grand Varuna, Indra, les Asvin et les Marut. La reine Nisumba s'approcha et jeta dans le feu une poignée de parfum d'un geste de défi, en prononçant une formule magique dans une langue inconnue. La fumée s'épaissit, les flammes tourbillonnèrent et les prêtres épouvantés s'écrièrent. Ô reine, ce ne sont pas les devas, mais les Rakshasas qui ont passé sur le feu. Ton sein restera stérile. Kansa s'approcha du feu à son tour et dit au prêtre. Alors, dis-moi de laquelle de mes femmes naîtra le maître du monde. À ce moment, Devaki, la sœur du roi, s'approcha du feu. C'était une vierge au cœur simple et pur qui avait passé son enfance à filer et à tisser et qui vivait comme dans un songe. Son corps était sur la terre, son âme semblait toujours au ciel. Devaki s'agenouilla humblement en priant les devas qu'ils donnassent un fils à son frère et à la belle Nisumba. Le prêtre regarda tour à tour le feu et la vierge. Tout à coup, il s'écria plein d'étonnement. « Ô roi de Madura, aucun de tes fils ne sera le maître du monde. Il naîtra dans le sein de ta sœur que voici. » Grande furent la consternation de Kansa et la colère de Nisumba à ces paroles. Quand la reine se trouva seule avec le roi, elle lui dit « Il faut que Devaki périsse sur le champ. » Comment, répondit Kansa, ferais-je périr ma sœur? Si les devas la protègent, leur vengeance retombera sur moi. Alors, dit Nisumba pleine de fureur, qu'elle règne à ma place et que ta sœur met au monde celui qui te fera périr honteusement. Mais moi, je ne veux plus régner avec un lâche qui a peur des débats, et je m'en retourne chez mon père, Kalahini. Les yeux de Nisumba lançaient des feux obliques. Les pendeloques s'agitaient sur son cou noir et luisant. Elle se roula par terre et son beau corps se tordit, comme un serpent en fureur. Kansa, menacé de la perdre et fasciné d'une volupté terrible, fut saisi de peur et mordu d'un nouveau désir. « Eh bien, dit-il, Deva qui périra, mais ne me quitte pas. » Un éclair de triomphe brilla dans les yeux de Nisumba. Une onde de sang empourpra son visage noir. Elle se releva d'un bond et enlaça le tyran dompté de ses bras souples. Puis, l'effleurant de ses seins d'ébène, d'où s'exhalaient des parfums capiteux, et le touchant de ses lèvres brûlantes, elle murmura à voix basse « Nous offrirons un sacrifice à Kali, la déesse du désir et de la mort. Elle nous donnera un fils qui sera le maître du monde. » Cependant, cette nuit même, le Purohita, chef du sacrifice, vit en songe le roi Kansa qui tirait l'épée contre sa sœur. Aussitôt, il se rendit chez la vierge Devaki, lui annonça qu'un danger de mort la menaçait et lui ordonna de s'enfuir sans tarder chez les Anachorètes. Devaki, instruite par le prêtre du feu, déguisée en pénitente, sortit du palais de Kansa et quitta la ville de Madura sans que personne s'en aperçût. De grand matin, les soldats cherchèrent la sœur du roi pour la mettre à mort, mais ils trouvèrent sa chambre vide. Le roi interrogea les gardiens de la ville. Ils répondirent que les portes étaient restées fermées toute la nuit. Mais dans leur sommeil, ils avaient vu les murs sombres de la forteresse se briser sous un rayon de lumière et une femme sortir de la ville en suivant ce rayon. Kansa comprit qu'une puissance invincible protégeait Devaki. Dès lors, la peur entra dans son âme et il se mit à haïr sa sœur d'une haine mortelle.